toutes les naissances dans nos familles, mais celle-ci l'est d'autant plus que, vous le savez, si vous êtes ici, c'est parce que cet enfant n'est pas un enfant comme les autres. Hein, c'est un enfant qui est le fruit, qui est l'accomplissement d'une promesse, combien Dieu enverrait un Messie, enverrait quelqu'un qui changerait l'histoire du monde, hein, qui dont son royaume, sa royauté s'étendrait sur le monde entier et qui gouvernerait de façon complètement renouvelée le monde entier. Cette promesse a été donnée au peuple élu, peuple juif, qui pour une part va accueillir Jésus comme le Messie. Un certain nombre de juifs dans l'église primitive vont accueillir Jésus comme le Messie. Les premiers chrétiens étaient des juifs. Et puis ensuite, tout au long de l'histoire, il y aura régulièrement des juifs. Et encore aujourd'hui, il y a des communautés chrétiennes de juifs, qu'on appelle les juifs messianiques, qui accueillent Jésus comme leur Messie. Toujours est-il que c'est à eux qu'avait été faite cette promesse, mais avec une promesse d'une royauté qui serait différente et qui s'étalerait sur le monde entier. Et puis donc, il y a eu beaucoup ensuite, ça s'est réalisé, cet enfant Jésus qui naît dans une crèche, parce qu'il n'y a même pas de place dans la salle commune, donc il naît dans un lieu d'une extrême pauvreté, eh bien, cet enfant va réellement être roi, mais de façon inhabituelle, inattendue, incompréhensible pour un certain nombre de ses contemporains. Nous le connaissons, nous savons, nous connaissons l'histoire. Son trône à ce roi, ce trône terrestre, sera le mystère de la croix. Ce sera Jésus sur la croix que nous avons au fond de l'église. Jésus sur la croix, c'est ça son trône terrestre. Il y a un trône céleste, qui est le trône du Christ glorieux, mais sur terre, il se présente à nous comme le crucifié qui veut régner sur la vie des hommes, mais de façon inhabituelle, sans la puissance que l'on a l'habitude de voir affirmée par les hommes qui prennent le pouvoir. Sa puissance à lui, c'est la puissance de l'abaissement, la puissance de la faiblesse. Alors, dans un monde comme le nôtre aujourd'hui, 2000 ans après cette nativité, Jésus a donc 2018 ans, Jésus dans son humanité, il est né il y a 2018 ans à peu près, à quelques années près, vous recalculerez vous-même, j'ai pas fait le calcul. En tout cas, c'est pas tout jeune, mais il est vraiment éternellement jeune. Et c'est ça qui est aussi extraordinaire, c'est que Dieu se manifeste à travers Jésus comme éternellement jeune. Dieu n'est pas le vieil homme que parfois on représente, un vieil homme qui dure de toute éternité, voilà. Non, il est éternellement jeune. Il ressemble plus à cet enfant qu'à un vieillard, voilà. Même si les personnes âgées sont aussi une image aussi du Seigneur, évidemment, mais voilà. Quand on veut regarder Dieu, regardons cet enfant parce que c'est lui qui est Dieu. Voilà. Et donc, dans un monde 2018 ans après, dans un monde où il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'inconnus, eh bien, nous pourrions être tentés de verser dans le pessimisme et de regarder les événements de l'histoire, les événements parfois de notre vie, de notre vie personnelle, puisque j'imagine qu'il y a beaucoup de joie dans vos vies, mais qu'il y a aussi quelques peines, quelques épreuves. Vous pourriez regarder ces épreuves comme étant celles qui ont le dernier mot dans notre vie, celles qui disent, voilà, c'est comme ça, la vie est comme ça, voilà. Et donc, c'est parfois ce qu'on entend d'ailleurs, malheureusement, surtout quand il y a des décès ou des choses comme ça. Parfois, les gens disent, ben voilà, comme s'il y avait une forme de fatalité déprimante. On va se faire une raison. On vit comme les animaux. On naît et puis on finit par mourir, puis c'est tout. Puis on passe à autre chose. Eh bien non, c'est faux. Ce regard n'est pas un regard proprement chrétien à cause de cette naissance de l'enfant Jésus. Puis aussi, on peut regarder aussi notre société avec toutes les tourmentes qu'il y a, les inquiétudes, la violence qui se manifeste, les souffrances que l'on rencontre autour de nous, les guerres aussi dans le monde, le terrorisme, voilà. Et puis aussi, on peut regarder aussi notre société, comme elle fonctionne, quelles sont les valeurs majeures de notre société. On donne quelques valeurs pour se rassurer, mais les valeurs fondamentales, me semble-t-il, pourrez me corriger, vous avez le droit, c'est pas du dogme, je suis pas un dogme que je suis en train de dire, mais les valeurs fondamentales, c'est quand même le consumérisme, c'est le profit et la consommation. Hein, comme si on pouvait être heureux simplement parce que j'ai reçu un cadeau, simplement parce que j'ai pu m'offrir un cadeau, j'ai pu faire un voyage, et nous savons, nous savons que ça suffit pas. Hein, non pas que ce soit mauvais en soi, si c'est à sa bonne place, ça va. Mais si c'est pas à sa bonne place, ça peut même nous rendre malheureux. Et donc, nous pourrions être un peu pessimistes voyant tout ça. Et cette fête de la nativité est empreinte de joie parce que la nativité du Seigneur, Dieu met une lumière nouvelle dans notre monde. Hein, je le disais au début de la célébration, si cette messe normalement a lieu au cœur de la nuit, elle devrait être à minuit cette messe, mais on le fait pas par miséricorde pour nous. Voilà. Et donc, elle est quand même dans la nuit. Alors, elle doit se faire dans la nuit, parce que c'est vraiment le symbole de cette lumière de Jésus, qui est lumière du monde, dans les ténèbres, qui vient dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est vraiment l'image de l'histoire du monde, où on pourrait être pessimiste, on pourrait regarder les choses avec le verre moitié vide, et c'est notre tendance aussi très naturelle, nous, Français, de faire cela, hein, de regarder les verres moitié vides, on aime bien. On aime bien se lamenter, comme ça, ça va pas. Et puis, ah oui, vous avez raison, ça va vraiment pas. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va devenir? Ah ben non, on sait vraiment pas. Donc, tout va mal. Eh bien, non. Je suis désolé de vous décevoir. Mais les choses se présentent plutôt bien. Un enfant nous est né. Voilà. Et cet enfant est lumière. Lumière dans les ténèbres. Et à partir d'il y a quelques jours, à partir de ces jours-ci, désormais, la nuit, qui est longue actuellement, eh bien, va commencer à diminuer. La nuit va commencer à diminuer pour le soleil, le jour va commencer à gagner du terrain sur les ténèbres. C'est la symbolique même de cette fête qui se manifeste comme ça, c'est-à-dire que la lumière de Jésus-Christ va progressivement gagner sur les ténèbres, jusqu'à un point fatidique qui va être celui de Pâques, le moment de Pâques, qui correspond à peu près où la nuit et le jour sont de même durée dans nos régions. Et là, il va y avoir un basculement avec Pâques, avec la mort et la résurrection de Jésus, la durée du jour va commencer à être plus longue que la durée de la nuit. Basculement, désormais la lumière est plus forte que les ténèbres. Tout ça, cette symbolique nous parle et nous dit ce qui se passe. Si les ténèbres semblent importantes, prendre beaucoup de place, il n'empêche qu'il a vaincu, la lumière du monde gagne du terrain sur les ténèbres, désormais. Et il se passe beaucoup de choses durant cette nuit. Beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup de choses dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire, durant cette nuit. Déjà, la nuit même où c'est arrivé, vous avez entendu le récit de l'Évangile. Ces anges, tout ça, je ne sais pas si vous avez vu des anges. C'est très très beau, hein. Donc, vous n'avez pas vu. Donc, je vous conseille de demander pour voir quelques anges. En tout cas, ces anges qui se mettent à chanter. Alors, on ne les voit pas toujours à la messe, on les entend. Parce qu'on chante, on chante gloire à Dieu comme on l'a fait. On chante aussi, tout à l'heure, on va chanter Saint, Saint, Saint. C'est un chant des anges. Hein. Quand on chante, nous, on accompagne simplement un chant angélique. C'est pas nous qui chantons les premiers, puis les anges qui nous rejoignent comme ils peuvent. C'est l'inverse. C'est nous qui rejoignons les anges dans notre chant. Donc voilà, les anges se manifestent. Donc il y a aussi les bergers. Et puis vous avez remarqué aussi, dans les crèches, on a l'habitude, c'est pas dans les évangiles, mais dans les crèches, on a l'habitude de mettre un âne et un bœuf. Donc l'âne et le bœuf, je ne sais pas si vous vous demandez pourquoi ils étaient là. Hein, ben oui, parce que, en fait, l'âne et le bœuf, ça vient du prophète Isaïe. Hein, le prophète Isaïe, où il est dit au chapitre 1, au verset 3, « Le bœuf reconnaît son propriétaire et l'âne la crèche de son maître. Israël ne le connaît pas. » Mon peuple ne comprend pas. Dans cette prophétie d'Isaïe, il est dit que le bœuf et l'âne sont plus doués que nous. Ils sont plus doués qu'Israël, mais c'est nous, hein. C'est-à-dire que eux, ils reconnaissent leur maître. D'ailleurs, on voit très nettement, hein, vous avez vu. Je sais pas si nous, on est comme eux. Ils regardent l'enfant Jésus. Mais nous, on le reconnaît pas bien. On a du mal à le reconnaître. Et justement, cette interpellation pour illustrer cela, les crèches, il y a toujours cet âne et cette bœuf, pour se demander, est-ce que je suis plus bête qu'un âne? Voilà. Est-ce que je suis un bœuf? Est-ce que je suis capable de reconnaître l'enfant Jésus? Hein, c'est cette interpellation, est-ce que je suis capable de reconnaître mon maître? Dans cet enfant Jésus, est-ce que je suis capable de reconnaître mon maître? Et donc, dans cette nuit, s'est passé beaucoup de choses dans l'histoire, mais j'en ai retenu, pas trop, je vous rassure, parce qu'il est déjà 10 minutes que je commence à prêcher. Non. J'ai retenu simplement 3 conversions qui s'est passées dans la nuit de Noël, en 1886. Première conversion, la même nuit de Noël, 1886. J'imagine que cette nuit va en avoir des nouvelles. 1886, parce que c'est 3 personnages qui sont connus, en fait. C'est pour ça que je prends cette illustration-là. Première conversion, Paul Claudel, un poète du 19e siècle. Paul Claudel, il est né dans sa famille qui ne le prédestinait pas du tout à être chrétien. Sa mère était presque insensible à la pratique religieuse et son père était anticlérical. Donc, il avait quand même été baptisé, parce qu'à l'époque, au 19e siècle, beaucoup de Français étaient baptisés, hein, même si on pensait le contraire. Et donc, à l'âge de 18 ans, eh bien, il dit ceci. « J'avais complètement oublié la religion et j'étais à son égard d'une ignorance de sauvage. La première lueur de vérité me fut donnée à la rencontre des livres d'un grand poète à qui je dois une éternelle reconnaissance et qui a eu, dans la formation de ma pensée, une part prépondérante, Arthur Rimbaud. La lecture des Illuminations, puis quelques mois après, d'une saison en enfer, fut pour moi un événement capital. Pour la première fois, ces livres ouvraient une fissure dans mon bagne matérialiste et me donnaient l'impression vivante et presque physique du surnaturel. Mais mon état habituel d'asphyxie, de désespoir restait le même. Tel était le malheureux enfant qui, le 25 décembre 1886, se rendit à l'église Notre-Dame à Paris, à la cathédrale Notre-Dame, pour y suivre les offices de Noël. Je commençais alors à écrire et il me semblait que dans les cérémonies, donc il commençait son travail d'écrivain, il me semblait que dans les cérémonies catholiques, considérées comme décadentes, avec un dilettantisme supérieur, je trouvais un excitant approprié à la manière de quelques exercices décadents, et la matière de quelques exercices décadents. Ça l'inspirait, n'est-ce pas? C'est dans ces dispositions que, coudoyé et bousculé par la foule, j'assistais avec un plaisir médiocre à la grand-messe. Je ne sais pas si c'est votre cas. Puis, n'ayant rien de mieux à faire, je revins pour les vêpres. Il devait s'ennuyer sans doute. Les enfants de la maîtrise en robe blanche et les élèves du petit séminaire de Saint-Nicolas du Chardonnay qui les assistaient étaient en train de chanter ce que je sus plus tard être le Magnificat. J'étais moi-même debout dans la foule près du second pilier à l'entrée du chœur, à droite du côté de la sacristie, là-bas. Et c'est alors que se produisit l'événement qui domine toute ma vie. En un instant, mon cœur fut touché et je crus. Je crus d'une telle force d'adhésion, d'un tel soulèvement de tout mon être, d'une conviction si puissante, d'une telle certitude, ne laissant place à aucune espèce de doute, que depuis, tous les livres, tous les raisonnements, tous les hasards d'une vie agitée n'ont pu ébranler ma foi, ni, à vrai dire, la toucher. J'avais eu tout à coup le sentiment déchirant de l'innocence, l'éternelle enfance de Dieu, une révélation ineffable. À ces mêmes périodes, se convertit le bienheureux Charles de Foucault. Lui, c'est deux mois plus tôt. Charles de Foucault cherchait Dieu, il était tenté aussi par l'islam, et puis il revient en France et il rencontre un père, le père Uvelin, guidé par quelques fidèles, hein, qui l'avaient orienté, dont une sainte femme. Ce père Uvelin le voit venir, et qu'est-ce qu'il lui fait faire? Je ne veux pas vous faire peur. Il dit ceci. Il me fit mettre à genoux, et me fit me confesser, et m'envoya communier, séance tenante. Et Charles de Foucault était devenu chrétien. Et il dira, « Jésus, vous avez tellement pris la dernière place que jamais personne n'a pu vous la ravir. » Il contemplera, donc dans cette première nuit de Noël, contemplera Dieu dans sa petitesse. La même nuit de Noël, 1886, la petite Thérèse de Lisieux se convertit elle aussi, elle a 13 ans. Charles de Foucauld en avait 28. En cette nuit où il se fit faible et souffrant pour mon amour, il me rendit forte et courageuse, dit Thérèse. Je sentis en un mot la charité entrer dans mon cœur, le besoin de m'oublier pour faire plaisir, et dès lors je fus heureuse. Et un peu plus loin, elle dira, « Depuis cette nuit bénie, je ne fus vaincu à aucun combat, mais au contraire, je marchais de victoire en victoire et commençais, pour ainsi dire, une course de géant. » Pour terminer cette exhortation à la rencontre de Jésus, la lumière du monde, je voudrais évoquer simplement un chant, « Douce nuit » qui fête cette nuit ses 200 ans. Il a été écrit en 1818 par un jeune prêtre de 24 ans, autrichien. Ce chant a eu un tel succès qu'il est traduit en 300 langues. Il est reconnu comme étant le patrimoine immatériel universel de l'UNESCO. Voilà, il a connu un succès foudroyant. Il a été chanté par tous les grands artistes, y compris Elvis Presley, Maria Carey, de façon plus récente, Céline Dion, Luis Mariano, Tino Rossi et bien d'autres. Toujours est-il que je propose que l'on termine cette longue homélie. Pardonnez-moi, j'espère que je ne vous ai pas endormi trop d'ailleurs. Sinon, vous allez pouvoir vous réveiller maintenant. Nous allons pouvoir chanter ce chant, « Douce nuit ». Et je vous invite en le chantant à le prier aussi. Amen.